Radio Okapi.
Le journal, Jacques-Yves Molima.
Conférence interprovinciale Grand Katanga et Grand Kassai, la clôture est reportée pour demain samedi. Initialement prévue pour hier jeudi, l'agenda du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui est sur place à Lubumbashi ne l'a pas permis. Augmentation sensible des cas de paludisme dans la province du Kwilu en 2021, l'on a dénombré plus de 880 000 cas contrairement à l'année 2020. C'est le gouverneur de la province qui l'a annoncé et qui appelle à une réévaluation des stratégies de lutte. La conférence interprovinciale de Lubumbashi se clôture demain samedi, vous le savez. Elle avait pour objectif analyser les causes des tensions entre les communautés du Grand Kassai et du Grand Katanga. Tarsis Kabatusui, la gouverneure intérimaire de la province du Kassai central, l'un des participants, donne sa lecture sur ces tensions et propose des voies de sortie. Il est notre invité dans cette édition. Voilà tout pour le sommaire. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Initialement prévu pour hier jeudi à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, la clôture de la conférence interprovinciale entre les provinces des espaces du Grand Katanga et celle de l'espace du Grand Kassai est renvoyée à demain samedi. D'après nos sources, seul agenda du chef de l'État qui ne l'a pas permis. Félix-Antoine Tshisekedi a reçu les diplomates de certains pays européens et africains. Il a aussi accordé des audiences aux représentants de certaines communautés et présidé le Conseil provincial de sécurité. Autre nouvelle, le Forum régional de sensibilisation et de renforcement des capacités des acteurs des médias numériques sur la prévention des conflits liés au discours de haine et la lutte contre ces phénomènes en Afrique centrale, qui se tient à Bangui depuis le mardi, se poursuit. La troisième journée hier a été essentiellement consacrée au partage d'expériences où chaque participant a présenté la situation des discours haineux en ligne dans leurs pays respectifs et leurs impacts sur la paix sociale, ainsi que les moyens mis en place pour y faire face. Pamela Loubaki pour les détails.
L'exercice a consisté en effet de dresser un inventaire des mots de la haine employés dans les médias en ligne et les réseaux sociaux, les contextes, leur signification, ainsi que les outils utilisés pour les prévenir et les combattre. La RDC a été représentée à ces forums par Passion Ligodi, responsable du média en ligne actualité.cd, qui a dressé un petit tableau de la situation de la haine en ligne en RDC et les mots employés notamment à la suite du processus électoral de 2018. Passion Ligodi.
Depuis que l'opposant est devenu président de la République, donc on a l'ancienne opposition qui s'est fragmentée. Et du coup, on a créé des blocs. Et parmi ces blocs-là, vous avez un bloc qu'on appelle les talibans.
Par ailleurs, au Cameroun, le discours de haine qui touche près de 4 millions de personnes dans les réseaux sociaux a été matérialisé à partir de 2016, mais ils ont toujours existé depuis les années 90 avec les conflits électoraux et aujourd'hui avec les crises sécuritaires causées notamment par le groupe armé terroriste Boko Haram et les tensions sociopolitiques dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Armel Tshishoma de l'Association des blogueurs du Cameroun en Centrafrique, pays hôte de ce forum. Plusieurs actions de sensibilisation sont menées auprès du public par les blogueurs, journalistes, fact-checkers pour conscientiser et attirer l'attention sur les discours de haine qui circulent sur les réseaux sociaux. Depuis Bangui, Pamela Loubaki pour Radio Okapi.
Et puis l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs, Yuan Xia, demande à tous les groupes armés opérant dans l'est de la RDC de déposer les armes. Les populations de l'Est n'ont que trop souffert et la région ne peut s'autoriser une énième crise. Il a lancé ce message mercredi dernier lors de son exposé devant le Conseil de sécurité. Selon lui, la situation dans la région des Grands Lacs a été caractérisée par une dynamique encourageante de dialogue, de coopération et d'intégration et plus généralement d'une volonté continue de s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité. D'autres détails avec vous, Blaise Makassi.
Huang Xia qui présentait le dernier rapport en date du secrétaire général de l'ONU portant sur la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix a déploré que les ADF et d'autres groupes armés locaux continuent de commettre des atrocités contre les populations civiles. Cependant, il s'est réjoui de la dynamique encourageante du dialogue, des coopérations et d'intégration et plus généralement d'une volonté continue de s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité. Selon lui, cette dynamique positive a été perturbée par la crise sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC, exacerbée par la reprise des activités militaires de la rébellion du M23 durant les derniers trimestres de l'an dernier. Huang Sha a indiqué que les ADF semblent toujours bénéficier d'un réseau de recrutement dans la région, voire au-delà, comme l'ont confirmé certains capturés lors des opérations conjointes de la RDC et de l'Ouganda. En dépit de cette fragilité sur le plan sécuritaire, l'envoyé spécial s'est dit convaincu qu'il est encore possible de consolider les acquis importants enregistrés à ce jour dans la région et d'avancer progressivement vers une paix durable. Béni, Blaise Makassi, Radio Kapi.
Alors sur le terrain Nord Kivu, depuis quelques jours, des cas des armes ravies aux policiers sont rapportés à Beni, Butembo et Lubero. Le coordonnateur des opérations de maintien et rétablissement de l'ordre public de la police dans la région accuse des jeunes assimilés aux miliciens Mai Mai d'être auteurs de ces actes. Toutefois, le colonel Jean Wumbi annonce que des mesures sont déjà prises pour mettre fin à cette situation. On l'écoute au micro de Martial Papimukeba.
Il n'y a pas longtemps qu'on a ravi l'armée à un de nos policiers au niveau des cantines, et à Boutouguera aussi, à Boutou et dans les Bachou, à Boutembo. Et aujourd'hui, la nuit, on a tenté à ravir à notre policier l'arme au niveau de Wicha. Mais cette fois-là, on a fait tout pour récupérer cette arme-là. Les enquêtes sont menées. Il y a des enfants du terroir assimilés à des Maïmaï qui font ces bêtises, qui récupèrent les armes pour tourner les canons contre nos policiers, nos militaires ou bien nos paisibles populations. Il y a de cela pratiquement quelques temps que le télégramme a été lancé à tous mes collègues des commissariats territoriaux et urbains de la police pour que nous puissions prendre des dispositions utiles, regrouper les policiers là où ils peuvent agir avec efficacité contre les gens qui puissent venir leur ravir les armes, tirer les oreilles des policiers, éviter de prendre beaucoup d'alcool, être en vagabondage.
Nous l'avons dit au sommaire, plus de 880 000 cas de paludisme ont été enregistrés dans l'ensemble de la province du Kwilu au cours de l'année 2021. Les statistiques montrent que la province a connu une augmentation sensible des cas de paludisme comparativement à l'année 2020 où près de 850 000 cas ont été enregistrés. C'est le gouverneur de cette province, Willy Itchundala, qui l'a dit mardi dernier lors d'une conférence organisée pour la signature du contrat de performance par le médecin chef de zone du Kwilu dans le cadre de la nouvelle approche ABC qui signifie contrat basé sur les résultats pour la distribution en masse des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Selon lui, cette situation inquiétante en appelle à une réévaluation de stratégie de lutte. Les propos de Willy Itchundala, gouverneur du Kwilu, sont proposés par Irène Mboma.
Nous sommes particulièrement fiers que notre province ait été choisie comme pilote dans l'approche ABC, qui signifie contrat basé sur les résultats. Ceci est une opportunité pour le Kwilu de concentrer ses efforts pour la réussite de cette innovation dans la distribution de masses de moustiquaires imprégnés d'insecticides en République démocratique du Congo. Avec plus de 886 000 cas de paludisme enregistrés en 2021 dans notre province, les statistiques de cette maladie au Kwilu affiche une tendance à l'augmentation par rapport à 2020 où le nombre de cas était de 855-884. Depuis le début de cette année, le Kwilu a déjà déployé dans l'ensemble 1361 décès, 353 décès dus au paludisme, dont 216 de moins de 5 ans, soit 61%. Cette situation inquiétante en appelle à une réévaluation de ces stratégies de lutte. C'est la raison d'être de cette nouvelle approche ABC.
Et puis en plus bref, dans les territoires de Calais, 4 corps sans vie, 7 disparus, plusieurs blessés et plus de 150 maisons endommagées. C'est le bilan provisoire d'un éboulement de terre survenu dans la localité de Nyamukubi. Les faits se sont produits dans la nuit de mercredi à hier jeudi. Cet éboulement est consécutif à une forte pluie qui s'est abattue dans le territoire. Cela a causé le débordement des eaux d'une rivière locale. L'information livrée par la société civile locale est confirmée par Jacques Kamanda, rapporteur de l'Assemblée provinciale élu de Calais. Nos efforts pour joindre l'administrateur du territoire de Calais n'ont pas abouti. Au Kassai oriental, plus de 1000 élèves de l'école primaire Benakalonji, dont 500 autres du secondaire de l'Institut Moutekemena, vont désormais suivre les cours dans des salles de classe équipées et construites aux normes standards. Le Fonds des Nations Unies, qui a financé une grande partie des travaux de construction, a utilisé l'approche communautaire, à savoir faire contribuer la population de la localité de Bena Kalonji aux travaux en apportant certains matériaux, dont notamment les sables et l'eau. La double cérémonie de remise des clés et d'inauguration de ces complexes scolaires a eu lieu hier jeudi à Bena Kalonji, dans le secteur de Bena Chilobo, territoire de Chilingi. Esther Ndalafina.
Le complexe scolaire Bena Kalonji, situé dans le groupement de Bena Chilobo, comporte 6 salles de classe, un bureau du directeur et 2 blocs pour les latrines. Les élèves de l'école primaire y fréquentent le matin et ceux du secondaire étudient l'après-midi. Depuis son existence, les élèves étudient à même le sol, sans tableau. Le mur de l'école avait des fentes. Jeanne Ngalula, un des parents, remercie l'UNICEF pour ce geste.
Avoir un tel bâtiment dans notre village. Nos enfants ont beaucoup souffert. Il y avait ici des bâtiments délabrés.
Monique Sompi sollicite la construction d'autres bâtiments.
Nos enfants avaient toujours des chics dans l'ancien bâtiment. Maintenant, on a mis les pavements.
Séraphin Petello, chef de bureau de l'UNICEF Mbujimaï, a indiqué que les nouvelles conditions d'apprentissage permettront aux élèves d'améliorer leur écriture.
Ces constructions permettront d'améliorer l'équité, l'accès à l'éducation aux enfants, le ratio élèves-enseignants des écoles à 50 élèves par enseignant, réduire les ratios élèves-bancs pour l'amélioration de l'écriture et des apprentissages.
Signalons que, selon les statistiques de l'UNICEF, le Kasaï oriental dispose de 1059 écoles primaires, dont 268 écoles publiques construites en dur. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
En Ituri, la nouvelle société civile congolaise et le conseil territorial de la jeunesse demandent le remplacement du directeur de la prison centrale de Mambasa. Ils l'ont fait savoir mercredi dernier dans un mémorandum adressé au gouverneur de province, le général Johnny Lubuya Kashama. Il dénonce des traitements inhumains et dégradants des détenus ainsi que la mégestion de cette maison carcérale où sont enregistrés de nombreux cas de décès de détenus. Ézéchiel Mouzalia.
Ces mouvements citoyens justifient leur démarche par l'accentuation des cas de décès des détenus dans cette maison carcérale. Dans leur mémorandum, ils parlent également d'incompétence du directeur de la prison centrale de Mambasa, à qui ils reprochent par ailleurs d'avoir instauré le paiement d'une somme de 350 000 francs congolais par détenu pour, je cite, « droit de la prison ». Selon le président du Parlement territorial des jeunes de Mambasa, cette situation bafoue les droits des détenus, Suleiman Onokoko.
Les prisonniers passent même nuit avec les cadavres de la prison centrale de Mambasa, la situation est extrêmement chaotique à la prison centrale de Mambasa.
Contacté, l'administrateur du territoire de Mambasa dit avoir été saisi des plaintes des habitants contre le responsable de cette prison. Le colonel Jean-Baptiste Mounyampandi promet de diligenter une enquête pour faire la lumière sur la situation générale de la prison de Mambasa. Le colonel Jean-Baptiste Mounyampandi.
Je suis en train de faire une enquête préparatoire. Il y en a parce que quand quelqu'un meurt, oui, on ne peut pas le passer. Il y a une séance de travail, il y a les directeur de la prison doit venir, c'est alors qu'on saura qu'effectivement il y en a eu combien.
De son côté, le directeur de la prison centrale de Mambasa n'a pas souhaité faire des commentaires. Bounia, Ézéchiel Mouzalia, Radio Okapi.
On revient ici à Kinshasa. Les huissiers de justice de la RDC renforcent leur capacité sur le traité relatif à l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OADA depuis mercredi jusqu'au 3 mai prochain. En partenariat avec l'Union internationale des huissiers de justice, ces huissiers ont été désignés par les responsables des juridictions congolaises de l'ordre judiciaire qui souffraient d'insuffisance de formation et d'absence de contrôle sur ces activités dans le domaine des affaires. Cette formation permet ainsi à les accommoder avec les huissiers coutumes de l'OADA. Jeff Ngoy.
Selon le vice-ministre de la Justice, Amadou Mirindi, la libéralisation de la profession d'huissier de justice prônée par la loi du 15 juillet 2016 a d'une part responsabilisé ce dernier en ce qu'il réponde de ses actes devant sa corporation et devant les instances judiciaires pour des préjudices qu'il pourrait causer et d'autre part permettre à la République de se conformer en cette matière au droit OADA. Pour le vice-ministre, parmi des réformes entreprises jusqu'ici dans le cadre de l'OADA figure la libéralisation de la profession d'huissier de justice et le relèvement du niveau de formation théorique et professionnelle continue de ses membres matérialisé par la loi numéro 16 du 15 juillet 2016 portant création et organisation de la profession d'huissier de justice. Aussi, la présente session de formation trouve-t-elle sa raison d'être dans le renforcement de leur capacité en vue d'améliorer le climat des affaires en RDC. Je peux affirmer que l'avènement de cette loi permet à mon pays d'être en phase avec les objectifs poursuivis par l'acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, a déclaré Amato Mirindi.
Actualité internationale.
En Ouganda, le président mozambicain Philippe Youssi est en visite officielle pour 3 jours dans le pays depuis mercredi. Après avoir rencontré son homologue ougandais Yoweri Museveni, les deux chefs d'État ont tenu une conférence de presse commune. Parmi les points abordés, la situation sécuritaire de la province mozambicaine du Cabo Delgado en proie à une rébellion islamiste depuis 2017. Si certains pays dont le Rwanda ont déployé depuis juillet 2021 des troupes pour combattre ces rebelles, le président Yoweri Museveni n'exclut d'envoyer lui aussi des soldats ougandais, du matériel pour l'instant et des troupes si nécessaire, c'est ce qu'a déclaré le président Yoweri Museveni. Et puis au 65e jour de l'invasion russe en Ukraine, ce vendredi, ce 29 avril, la capitale ukrainienne Kiev a été la cible des frappes jeudi soir en pleine visite du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Une tentative d'humiliation selon le président ukrainien, un choc pour l'ONU. Pendant ce temps, les régions méridionales et orientales de l'Ukraine, où se concentrent des assauts russes, sont sous un feu nourri des bombes.
L'invité.
La conférence interprovinciale de Lubumbashi s'est clôturée demain samedi. Elle avait pour objectif d'analyser les causes de tensions entre les communautés du Grand Kassai et Grand Katanga. Tarsis Kabatu Swila, gouverneur intérimaire de la province du Kassai central, l'un des participants, donne sa lecture sur ces tensions et propose des voies de sortie. Il est notre invité dans cette édition du journal. Il s'entretient avec Jean Ngandou. Suivez.
Monsieur le gouverneur, bonjour.
Bonjour.
Vous participez à la conférence interprovinciale qui a pour thème l'exode rural et le développement des provinces, avec comme point de mire les tensions intercommunautaires. Quelle lecture faites-vous de ces tensions intercommunautaires?
Ayant appris que la situation sociale a été un peu dérangée par rapport à l'arrivée massive de jeunes, filles et garçons, qui, même des grandes personnes de notre âge, se sont déplacées massivement vers le Katanga. Ce n'est pas la première fois. Lorsqu'il y a un boom au niveau du Katanga, l'essor du Katanga attire beaucoup plus de personnes. Étant donné que, au niveau du Kassai central de ma province, il y a eu un événement malheureux qui a baigné le Kassai central entre 2016 et 2018, du phénomène Kamuinansapu. Parce que ce phénomène Kamuinansapu qui a provoqué le départ massif de jeunes gens qui ont trouvé qu'ils ne pouvaient pas rester dans un espace où ça n'allait pas. Beaucoup sont venus vers le Katanga. Ça ne met pas à l'aise nos frères et sœurs du Katanga. Ça nous concédons.
Enfin, c'est quoi qui ne les met pas à l'aise?
Nos frères katangais, ils l'ont même déclaré. Pour quelle raison cette période préélectorale?
Donc ils ont une certaine crainte qu'il y aura une grande frange des Kassaïens ici qui vont peser sur l'électorat.
Ils n'ont pas manqué de le dire. Tous les groupes que nous avons pu recevoir au niveau de la conférence, tous les katangais ont parlé de même langage en disant qu'il y a un flux de Kassaïens ici à Lubumbashi, à Lualaba, Kamina, tout ça. Ça ne met pas à l'aise nos frères et sœurs du Grand Katanga. C'est ainsi que, pour nous, l'espace Grand Kassai, nous nous sommes dit qu'il faut répondre à l'appel du président de la République pour tenter de remettre la pendule à l'heure. C'est-à-dire, depuis longtemps, les Kassaïens et les Katangais ont toujours vécu ensemble sans problème. Mais que se passe-t-il aujourd'hui? Pour cette raison, de l'arrivée massive des Kassaïens, ça puisse poser un problème. Ces arrivées-là massives, même nous, nous sommes à la place de nos frères et sœurs du Grand Katanga. Et c'est pour ça que nous avons été appelés à réfléchir ensemble.
Mais alors, après avoir réfléchi, quelles sont les pistes de solutions que vous avez pu mettre en exergue?
Les pistes de solutions sont si simples. Pour quelles raisons les jeunes se sont déplacés massivement vers le Katanga? Parce qu'il manque à faire.
Mais pourquoi vous ne leur donnez pas à faire?
Nous le référons au pouvoir central pour pouvoir donner du travail à nos frères et sœurs. Donner du travail signifie, primo, ouvrir toutes les routes d'interconnexion, ouvrir des routes nationales, notamment la route nationale numéro 1, ouvrir la route provinciale. Kalamambouji. Les gens trouveront bien à faire chez nous parce qu'en ce moment-là, dès que nous avons des routes, nous pouvons nous-mêmes nous rechercher économiquement pour que nos jeunes gens puissent rester. Non seulement cela, nous avons souhaité la relance des activités de la MIBA. Nous avons souhaité, si les activités sont relancées, si nous avons le courant en construisant la centrale hydroélectrique Katende, si nous avons à travers toutes nos 5 provinces les micro-centrales pour donner du courant, à ce moment-là, vous vous rendrez compte qu'il n'y aura pas d'exode, comme on semble dire. Là, nous disons, il ne s'agit pas de l'exode rural comme les autres veulent le maintenir. Il s'agit tout simplement des déplacements massifs d'une ville à l'autre. Donc, c'est ce que nous avons pu démontrer noir sur blanc qu'il faut éviter que ces déplacements ne continuent. En donnant du travail à nos jeunes, par exemple, dans le Laba, on trouve plus de 25 000 jeunes gens qui font de l'exploitation artisanale des minerais. Mais pourquoi chez nous, nous avons aussi des carrés miniers non exploités, non explorés?
Mais pourquoi c'est vous ne les exploitez pas, vous ne les explorez pas?
Ce n'est pas seulement le travail de la province. Parce qu'en ce moment, la plupart des carrés miniers ont été rétribués à nos frères et sœurs qui en sont devenus propriétaires. Il faut que le pouvoir central puisse comprendre qu'il faut absolument aider nos jeunes gens à accéder par le décapage. Nous avons beaucoup de gisements de minerais. Le diamant, par exemple. Le diamant ne se retrouve pas à une surface de moins de 20 mètres ou 30 mètres de profondeur. Mais il faut qu'il y ait la possibilité de décaper et permettre l'accès facile aux jeunes gens d'accéder à dans les mines de diamants. C'est ce que nous avons proposé comme solution. Bref, si on aura créé cette ambiance-là en permettant aux jeunes gens d'accéder à des mines, faire l'exploitation artisanale des diamants et toutes sortes de minerais que nous comptons chez nous, je pense qu'on arrêterait facilement le déplacement massif de nos jeunes gens et jeunes filles.
Merci beaucoup, M. Tarsis Kabatou-Suila.
C'est à moi de vous remercier aussi.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.